Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour toutes les grâces et bontés et ta miséricorde qui chaque jour se renouvelle pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, est-ce que vous vous rappelez de la prédication? Oh, il y a de l'eau qui a passé sous le pont. Le vent a balayé les nuages. Est-ce que vous avez médité dessus? Vous savez que vous pouvez toujours regarder sur notre site les prédications qui sont apportées. Des fois que vous auriez loupé un passage. Oui. Fabrice nous a dit, celui qui est à table avec moi va me trahir. C'est ça? Oui. Il a parlé de la vigne improductive. Et il a dit, Jésus a dit à Judas, ce que tu as envie de faire, fais-le. Alors, c'est vrai que, j'allais dire, ma longue expérience, je me dis, est-ce que les choses changent? Ce matin, vous êtes venu à l'église. Vous êtes venu à l'église pour louer le Seigneur, pour le bénir. Alors je pense que vous l'avez fait dans votre cœur parce que je ne vous ai pas entendu. Mais vous êtes venu aussi à l'église pour être encouragé. Vous êtes en vacances, hein? Vraiment en vacances. Vous êtes venu pour être enseigné. Vous êtes venu pour écouter une prédication. Et puis, en dehors de cela même, j'allais dire, puisque vous avez beaucoup de temps de libre maintenant, parce que vous êtes en vacances, vous allez sur Internet voir les chants spirituels, voir les prédications qui sont sur Internet. C'est aussi l'occasion de lire de nombreux livres. Ah, je dis, c'est bien tout ça. C'est vraiment bien tout ça. Mais parfois, je suis surpris, étonné même, lorsque je parle avec certaines personnes du fossé qui existe entre la connaissance théorique et ce qu'ils peuvent expérimenter vraiment. Alors j'aimerais ce matin vous conduire dans un livre qu'on n'a pas souvent l'occasion de lire, c'est Ecclésiaste. Ça vous dit quelque chose? Oui, vous le lisez de temps en temps, comme ça, le matin au réveil, vous lisez Ecclésiaste. Ah, ça met en forme tout de suite. Allez, on va aller au chapitre 12, si vous voulez bien. Et on va commencer par lire au verset 11. Alors, il finit au verset 10, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. » Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oh, on ne lit pas ça tous les jours. C'est vrai. Mais une fois comme ça, en passant, un dimanche matin, le 19 juillet, par exemple, on peut peut-être lire cela. Ça nous change de Jean 3,16. Du reste, mon fils, tirons ces choses, on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, beaucoup d'études et une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Alors, il est évident que je ne suis pas à la hauteur d'Ecclésiaste. Mais je trouve quand même que étudier s'il y a quelque chose de bon. S'instruire, c'est important et ça donne à l'homme, et à la femme aussi, bien entendu, d'acquérir de la connaissance. Étudier la parole de Dieu ne nous amènera pas forcément dans les hauteurs avec Dieu. C'est en cela que beaucoup se trompent. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai mis en titre de mon message « Écouter les prédications et entendre la voix de Dieu ne charge pas forcément l'homme et la femme. » Vous allez dire, c'est contradictoire avec ce que nous dit la Bible. Non, pas du tout. Quand je regarde et que je lis l'Ancien Testament, quand je lis le Nouveau Testament, quand je regarde les pharisiens qui, eux, apprenaient sans cesse, ils apprenaient la loi, ils la lisaient, ils la relisaient, ils la malaxaient dans tous les sens, ils l'interprétaient dans tous les sens, mais ils avaient du mal à aller vers Dieu. Alors, je vous rassure tout de suite, Jésus n'est pas contre l'instruction, bien au contraire. Bien des fois, il a exhorté les chrétiens à apprendre de lui, de s'instruire. Mais Jésus va reprocher aux pharisiens d'étudier toujours, et d'étudier toujours sans jamais rien apprendre, sans jamais tirer des leçons de ce qu'ils apprenaient. Et j'ai envie de dire ce matin, et pardonnez-moi, vous savez, j'ai toujours un langage assez direct, moi, c'est que dans l'Église, il y a malheureusement des mauvais élèves. Vous savez, il y a les parents ici. Oui ? Les grands-parents ? Oui ? Ah oui. Et j'imagine que, en tant que parent, eh bien, vous avez rapproché à vos enfants de ne pas bien étudier, ou surtout d'étudier. N'est-ce pas, Estelle? Ah ben oui, il y en a pour tout le monde ici. Et pour les vieux, les jeunes, les moins jeunes, et puis voilà. Puis pour ceux qui sont pas sages en même temps. Eh oui. Et il leur disait surtout, c'est pas tout d'apprendre, mais aussi mettez en pratique. Mettez en pratique ce que vous apprenez. Mais je me rends compte que le problème se retrouve, j'allais dire, plus accentué, peut-être avec les chrétiens de l'Église. Pas seulement de cette Église ici. J'allais dire, je suis un peu généraliste un petit peu quand même. Oui. Et parce que je l'ai déjà demandé à un prédicateur ce qu'il en pense. Et chacun pourra vous dire, hein, qu'une fois au moins, il a été surpris d'avoir prêché un certain message et qu'il n'a jamais vu les gens changer. C'est ça, hein, l'enseignement. C'est ça le message de Dieu. Dieu ne nous a pas donné que des oreilles. Hein? Il nous a donné un cœur aussi. Il nous a donné des jambes, il nous a donné les bras. Oui. Alors c'est vrai, aller à l'église pour être encouragé, pour être enseigné, pour écouter des prédications. Allez sur Internet aujourd'hui, il y a pléiade de prédications sur Internet. Lire de nombreux livres, oui, je l'ai dit, c'est bien. Mais je suis surpris parce que, tout à nouveau, quand je parle à certaines personnes du fossé qui existe entre leurs connaissances théoriques et ce qu'ils expérimentent vraiment. Et puis, il y a ceux qui lisent la parole. Vous êtes de ceux-là? Je voudrais pas vous gêner ce matin, mais excusez-moi. C'est la période des vacances. C'est la période des vacances. Oui, il y a ceux qui lisent la parole de Dieu sans cesse. Est-ce que vous êtes de ceux-là? Bien. Il y a ceux qui écoutent aussi sans cesse. Qui lisent les enseignements, qui entendent les enseignements. Et j'espère que vous apprenez quand même. Oui? Vous ne lisez pas pour lire. Moi, je lis beaucoup. Hein. Je lis beaucoup de livres, des fois. Et puis, je lis ça, comment on fait ça, en diagonale, là. Alors, ça va vite. Hein. Mais 8 jours après, je ne m'en rappelle plus. Quoi. Puis, alors, plus je vieillis, c'est terrible, ça. Comme disait la chanson, j'ai la mémoire qui flanche. Oui. Oui, la théorie et puis l'expérimentation, ça, ce sont deux choses différentes. Mais que l'une ne va pas sans l'autre. Parce que pratiquer des choses qu'on ne connaît pas, ça, c'est pas le top quand même. Hein. Il vaut mieux pratiquer des choses qu'on a appris, qu'on est sûr. Oui, il y a, et je l'espère, une certaine soif de connaître Dieu, d'apprendre de Dieu, d'apprendre de Jésus. Mais ne soyons pas comme les pharisiens qui, eux, n'arrêtaient pas d'apprendre et qui ne savaient rien, en fait. Parce que, mes frères et sœurs, écoutez une prédication. Cela doit nous amener à méditer. Cela doit nous amener dans la connaissance, une connaissance révélée, une connaissance apprise. Et puis, une fois qu'on est dans cette connaissance, eh bien, on doit normalement être amené à appliquer cette connaissance. Alors, c'est vrai qu'il y a des performeurs qui peuvent vous dire, moi j'ai lu un livre en une journée. Ça dépend, s'il y a 4 pages, moi j'y arrive. S'il y a 300 pages, c'est un peu plus difficile. Mais, qu'est-ce qu'on retire de cela? Est-ce qu'on retire quelque chose de constructif, de productif, hein, comme disait Fabrice dimanche dernier? Est-ce que la parole de Dieu produit quelque chose en nous? Ben oui, on en est là. Et il est vrai que, bien quand on leur demande 8 jours après, quel est le message que vous avez lu? Quelle parole vous avez lue cette semaine? Qui a retenu votre attention? Sur laquelle vous avez médité? Qui vous a fait du bien? Qui vous a fait grandir? Oui. Quel est, à travers un texte que vous avez lu, le message principal, la phrase, le mot qui a fait bling dans votre cœur? Pas bling bling, mais bling. Là, moi j'ai envie de dire, Dieu ne nous a pas demandé de lire seulement sa parole, mais il nous a demandé de la méditer. C'est ce que, lisez les psaumes. Je médite ta parole tous les jours. Il n'est pas dit, je lis ta parole tous les jours. Moi aussi, je lis la parole de Dieu tous les jours. Je lis des textes tous les jours. Je lis des comptes rendus tous les jours. Je lis des calendriers tous les jours. C'est pas interdit, je dirais même c'est nécessaire. C'est important, mais quelle est la finalité de tout cela? Posez-vous la question. Vous pouvez tous les jours lire 5 chapitres de la Bible. Waouh ! Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ce matin ? 5 chapitres de la Bible tous les jours. Mais en un an, vous avez fini de la lire. Puis il faut recommencer. C'est pour ça que je vais doucement, pour que ça dure plus longtemps. Oui, non, Dieu ne nous a pas demandé de lire seulement la parole de Dieu, mais de la méditer. Non plus, il ne nous a pas demandé de lire 5 chapitres tous les jours, parce que ça ne va pas vous changer forcément. Vous allez peut-être avoir de la connaissance, sans doute, mais si ça ne c'est pas productif, excusez-moi de le dire, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui peut changer les choses, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un verset qui va vous interpeller. Un verset que vous allez méditer dans votre journée, vous allez penser, repenser, et qui va produire quelque chose en vous. Et que vous ne serez plus le même ou la même. Ne soyons pas des êtres religieux, parce que nous le sommes par nature. Alors c'est vrai qu'on cherche à satisfaire Dieu, mais ce ne sont que les travaux de la chair, ça. Ne vous est-il pas déjà arrivé de lire la Bible, et puis une fois que vous avez refermé ce précieux livre, de ne pas vous rappeler ce que vous venez de lire? C'est vrai, vous, ça ne vous arrive pas, mais à moi ça m'arrive. Parfois je me dis, tu n'aurais pas la maladie d'Alzheimer à peu près? Ah oui. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, si je peux vous exhorter, je vous dirai, étudiez la Bible, oui, mais surtout, soulignez l'idée qui est dans le texte. Peut-être même à la limite, écrivez ce verset ou ce mot, parce que c'est certainement un message de Dieu, que Dieu vous donne à travers ce que vous avez lu et entendu. Mais là ne s'arrête pas l'expérience. Il faut demander à Dieu, et ça s'appelle la prière. Demandez à Dieu de vous éclairer sur ce qu'il a voulu dire dans ce texte. Dans ce vieux texte, toujours d'actualité, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en pratique? Vous savez, il y a des grands théologiens, ils sont comme des bibliothèques, mais je me dis parfois, c'est les scientifiques de la parole. Alors, c'est vrai, c'est très agréable d'entendre ces hommes-là. J'aime beaucoup. Mais est-ce que la pratique de la parole est mise en valeur? Imaginez un instant que... C'est un exemple. Que votre pasteur, il prêche sur l'amour. Waouh, ça c'est bien. Vous trouvez pas? C'est bien le message de l'amour. Ça fait pas de mal. Ça fait du bien même. Ah ouais. Mais qu'il vous demande de mettre justement cet amour de Dieu en pratique. Ah oui? Hein? Pendant la semaine là. Alors je ne prêche pas sur l'amour ce matin, hein, bien entendu. Votre pasteur, il sait le faire. Mais quelle est notre pratique sur l'amour? Est-ce que j'aime ma famille? Est-ce que j'aime ma belle-mère surtout? Moi je sais qu'il y a une belle-mère ici, elle est bien aimée. Hein. Hein? Gloire à Dieu. Moi aussi j'aimais bien ma belle-mère. On s'entendait bien tous les deux. Mais ce n'est pas toujours le cas dans les familles. Eh oui. Pratiquer l'amour à la maison, hein, au sein de la famille, les enfants vers les parents vers les enfants. Hein, pratiquer l'amour. Ouais. Ah. Oui, mettre en pratique. Et sans doute à travers des gestes simples, pas compliqués, pour ne pas se prendre la tête. Et lorsque le Seigneur vous demande de faire quelque chose, n'attendez pas des mois pour le faire. Alors c'est vrai que j'entends aussi cela dans les églises que je visite. Moi ici, quand j'entends par exemple le Seigneur m'a parlé. Waouh, c'est formidable ça. Il vous parle le Seigneur? Ah tiens, je vous pose la question, il vous parle le Seigneur? Oui? Oui. Hein? Oui, mais souvent, il y a des gens comme ça, le Seigneur m'a parlé. Oh, c'est bien. Ou j'ai eu une vision. Moi j'ai la télévision, mais je n'ai pas toujours des visions, quoi. Eh oui. Alors, si vraiment le Seigneur vous a parlé, c'est quand même extraordinaire, cela. Si vraiment le Seigneur vous a parlé, bien, qu'est-ce que vous attendez pour mettre en pratique ce que Dieu vous a dit? Vous savez, je reçois en ce moment, là, vous savez, je reçois du courrier d'un prophète. Une lettre, deux lettres, trois lettres, quatre lettres, un dossier complet. Et la finition, c'est... Ça, c'est du 9 juillet 2015, hein, c'est quand même pas vieux. Hein. Et cet homme dit, alors, qui suis-je? Alors, je vous passe tout le laïus à côté, quoi. Qui est celui que Dieu dit que je suis plusieurs fois par jour? Il est temps de mettre fin à ce qui n'est pas un suspense, mais plutôt une légitime attente de votre part. Dieu me dit que je suis Jésus-Christ. C'est écrit en toutes lettres. Eh oui. Je ne suis pas un illuminé. Je ne me montre pas le bourrichon, je crois seulement ce que Dieu me dit depuis des mois. S'il y a des contestations, adressez-les à Dieu. Bon, après c'est l'adresse. Alors je ne réponds pas, bien entendu, il se plaint parce que je ne lui réponds pas. Il me dit, vous n'êtes pas un bon pasteur. Pourtant il me dit, pasteur Gérard, il dit, oui, bien. J'ai envie de me dire, lâche-moi les baskets un peu. Oui. Alors c'est vrai qu'on rencontre ces gens-là. Un homme que je connais bien, qui s'est converti, mais qui a dérapé. Ouais. C'est terrible. Quand on a des illuminations comme ça, et qu'on finit à dire pour dire je suis Jésus-Christ, wow. Malheureusement, il y a ces personnes. Et je trouve que c'est terrible. Terrible. Oui, Moi, le Seigneur ne me parle pas de cette manière-là. Il me parle dans sa parole. Il me parle par son esprit. Une chose est certaine, si par exemple nous sommes encouragés à aller évangéliser quelqu'un, n'hésitez pas. Mais avant, placez-vous dans votre chambre. Priez dans votre chambre. Et là, dans ce lieu secret, Dieu vous dira et vous donnera les paroles qu'il faut dire. Oui. Malheureusement, on s'aperçoit que même dans ce domaine d'évangélisation, c'est difficile et de plus difficile à mettre en pratique le message. Que dire également de notre engagement dans l'Église? Je me souviens de ce frère pasteur, il n'y a pas bien longtemps, qui avait un grand besoin au niveau de l'accueil dans son Église. Il a enseigné pourtant l'importance de l'accueil. Il a expliqué autant qu'il pouvait l'importance d'accueillir les chrétiens, les nouvelles personnes dans l'Église. Et personne s'est présenté. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes submergés d'informations. Et comme on dit couramment, l'information tue l'information, hein, c'est ça? Oui, je pense qu'il nous faut avoir les informations nécessaires, parce que nous avons besoin d'informations. Mais nous avons surtout, quand c'est Dieu qui nous donne des informations, eh bien de les mettre en pratique. Dieu vous donnera ce pouvoir de le faire, petit à petit certainement, et au fur et à mesure vous recevrez plus d'informations. Vous savez, l'apôtre Paul dit, l'auteur de l'épître aux Hébreux, pardon, il dira, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Il dit, depuis le temps que vous entendez la parole de Dieu, vous devriez être des maîtres. Mais il dit, vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Vous êtes bien dans votre Église? Vous êtes bien curieux, vous allez me dire. C'est personnel, cela? Eh oui. Est-ce que vous voyez les besoins qu'il y a dans votre Église? Est-ce que vous réalisez aussi vos propres besoins? Parce que je remarque aussi que souvent, alors j'ai marqué les gens, mais bon, je vais dire les chrétiens, ne voient pas là où se trouve le vrai besoin. Alors c'est vrai qu'on a une petite librairie ici, elle n'est pas très étoffée, mais bon, je pense qu'il y a l'essentiel des choses. C'est important. Alors, c'est vrai que quand on va dans une nouvelle église, moi je le fais, hein, je vais au comptoir librairie pour voir s'il y a un livre intéressant. Alors, c'est vrai que j'en ai plein ma bibliothèque des livres. Hein. Plein. Et c'est vrai que quelqu'un voudra lire un livre sur le miraculeux. Les miracles de Dieu. Par exemple, un livre sur la maîtrise de soi. Oh, c'est bien. Ouais, important. Un autre voudrait lire un livre sur le leadership. Alors que peut-être il aurait besoin de prendre le livre « Comment aimer sa femme ». Un autre peut-être voudra un livre sur des témoignages de résurrection, sur la mort. Peut-être il aurait besoin d'un livre pour connaître l'importance de garder sa bouche en toute occasion et de faire attention à sa confession. J'entends aussi cette parole, moi je suis très sensible au Saint-Esprit. Ben, entre nous, c'est juste de l'orgueil. Hein. Je suis surpris de certaines confessions. Quelqu'un dit à un pasteur, je suis le prochain Billy Graham. Ah, rien que ça, quoi. Ah, non, mais c'est authentique. Hein. Ou alors, je suis le prophète, hein, comme cet homme-là que je viens de vous dire. Hein. Je suis le prophète sur les sables d'Olonne. Bien. Quelle déclaration. Malheureusement, cet homme dont je parle, parce que je sais, après nous avoir quittés dans l'église où j'étais, il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. Il y est resté des années. Il est ressorti parce que, pour bonne conduite, si je puis dire, mais aujourd'hui, il ressort des choses qu'il y a 15 ans, 20 ans. Oui, ces gens-là, malheureusement, on les retrouve par terre. C'est malheureux parce que cela donne une mauvaise image du Christ. Les gens qui sont autour de nous se moquent de Dieu, se moquent du Seigneur à cause de telles déclarations. Cela apporte aussi beaucoup de confusion. Il y en a d'autres qui disent « Moi, je me mets au fond de l'Église ». Parce que je suis très sensible. Alors, je ne dis pas ça pour vous qui êtes au fond, là. Hein. Vous n'êtes pas concernés, c'est le rang qui est derrière vous. Vous ne sentez pas spécialement visé ce matin, hein. Parce qu'après, vous n'allez plus revenir, à dire. Il nous a massacrés ce matin. Ouais. Non, mais certaines personnes qui se mettent au fond de l'Église parce qu'ils sont sensibles au Saint-Esprit, ils ne voudraient pas déranger les autres. Hein, ils se mettent à genoux, ils lèvent les bras, ils font des incantations, ils sont sensibles au Saint-Esprit. Et puis ils se disent, en se mettant dans le fond, c'est pas parce que certains, ils ne vont pas comprendre, ça peut peut-être les gêner aussi. Parce que vous savez, j'ai une très grande onction. J'ai une très grande onction. Ouais. Moi, je me suis un peu loin ce matin, vous voyez. C'était pas une grande onction. Non. Et puis, ce n'est pas parce que lorsqu'on prie ou d'un seul coup qu'on a cette sensibilité du Saint-Esprit qu'on doit tomber par terre. Est-ce qu'on est plus spirituel pour cela? Je ne pense pas. Il n'y a eu personne est tombé par terre, hein, ce matin. Alors, c'est bien. Pour moi, on est obligé d'appeler les urgences. Moi, je me dis, si on a reçu quelque chose de Dieu, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'en dit pas plus, hein. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, c'est vrai qu'on a besoin, et l'auteur de l'Épître dit, ben oui, vous avez besoin, et on a besoin, j'ai besoin d'une nourriture solide, une nourriture qui va m'aider à me développer, développer mon caractère. Moi, j'ai du caractère. Alors, je ne parle pas dans ce sens-là, hein, avoir du caractère, le caractère de Dieu, bien entendu. C'est aussi développer les fruits de l'esprit. Ah, autre chose. Ça vous arrive de vous mettre en colère? Il nous parle de tout, n'importe quoi ce matin. Je Je fais comme Fabrice, il a fait la revue hein, dimanche dernier. Je continue. Voyez, et la bonne école, alors il connaît le pigeon, quoi. Eh oui. Ah oui, se mettre en colère. Mais j'ai envie de dire, ah oui, mais vous savez, frère, il y a la sainte colère. Vous savez, Dieu s'est mis en colère, Jésus s'est mis en colère. Pourquoi pas moi, après tout? Ouais. Mais il y en a qui se mettent trop régulièrement en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un oui, pour un non. Eh oui. Alors, sans doute, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait peut-être lire un livre sur la maîtrise de soi. Sans doute. Hein. Oui, on a besoin de développer le fruit de l'esprit. Alors, est-ce que vous êtes patient? Ça dépend des jours. Ça dépend pourquoi. Ce qui voudrait dire qu'il y a des fois on peut être patient, puis des fois on ne peut pas être patient, quoi. Eh oui, mais bon. Hein, soyez patient tout le temps. Eh oui. Alors c'est vrai que je dis des gros mots ce matin. Et puis, tout à l'heure on a parlé de l'amour, est-ce que on est capable de s'aimer, c'est plus la main là. Est-ce que ça a une signification pour vous ce matin, ça? C'est parce que je vous l'ai demandé, vous êtes gentiment tenu par la main, comme des bons petits soldats? Ou est-ce que c'est quelque chose de vrai? Savoir aimer. Vous savez cette chanson? Savoir aimer. Oui. Savoir aimer nos ennemis. Déjà s'aimer soi-même, c'est déjà difficile, alors s'il faut aimer les autres, ça devient compliqué. Ouais. Alors peut-être que si on a des difficultés sur ces sujets, qui sont des sujets d'actualité, moi je vous propose de lire Jacques, chapitre 1, 21-26. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Une des, j'allais dire, des plus grandes bénédictions que possède un vrai croyant. Parce que le mot chrétien me paraît parfois galvaudé. Et j'ai envie de dire des vrais croyants, des disciples de Jésus-Christ. Oui, une des plus grandes bénédictions que pouvons posséder, c'est quoi? Eh bien, c'est d'entendre. Merci Seigneur de nous avoir donné des oreilles. D'important, c'est de connaître la voix de Dieu. Si nous n'avions pas connu la voix de Dieu, mes frères et sœurs, à un moment de notre vie, ne serions pas là, vous ne seriez pas là ce matin. C'est pas parce que le prédicateur vous a dit de vous convertir que vous êtes converti forcément. Il a fallu que la parole de Dieu pénètre en vous. Il a fallu que le Saint-Esprit fasse son œuvre en vous. Et donc vous avez entendu cette parole. Et vous avez connu que Dieu était Dieu. Que Jésus-Christ était le Sauveur. Et c'est vrai qu'il est possible d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui, mais certainement et clairement, aussi clairement qu'Abraham l'a pu l'entendre, que Moïse a pu l'entendre, que Samuel a pu entendre la voix de Dieu, que David a pu entendre la voix de Dieu, aussi clairement que l'apôtre Paul, Pierre et les apôtres, et Jean, que dire de Jean sur l'île de Patmos, mes frères et sœurs. Ils ont entendu une parole de Dieu. Et cette parole, nous l'avons aujourd'hui et nous pouvons la transmettre. Et cela, c'est ce qui est important. Oui, tu as fait la promesse de faire connaître sa voix clairement. Et il la fera entendre une dernière fois dans les derniers jours. Il nous a promis une promesse, un avertissement à propos d'entendre sa voix. Car Dieu va rassembler son peuple. Alléluia. Seras-tu prêt pour ce jour-là? Seras-tu prêt pour ce moment-là? Est-ce que ta vie sera en règle à ce moment-là? Parce que des fois, il faut du temps pour mettre sa vie en règle. Ça peut être instantanément, mais des fois, ça demande du temps pour régler certaines choses. Surtout dans les familles. Il faut des fois du temps. Et il faut vraiment la grâce de Dieu pour cela. Surtout quand ce sont des années. Et nous sommes réjouis. Dimanche dernier, je disais que des frères et sœurs qui étaient dans notre église, eh bien, ils étaient fâchés avec leur famille, leurs frères. Le frère de notre frère. Et elle m'a envoyé un message, un mail pour me dire on est en train de se réconcilier. Et je me dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu lorsque des familles se réconcilient. Alors ça prend du temps. Je ne sais pas combien de temps que ça a pris, mais chez nous, ils faisaient 4 ans au moins qu'ils étaient là, 4-5 ans qu'ils étaient chez nous. Hein? Et ailleurs, ils avaient ce problème-là. Donc c'est des choses qui peuvent prendre des années. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Règle tes affaires. Oui. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que nous y prenons garde? Ce message ce matin, ce n'est pas un message à l'eau de rose. Je n'ai pas l'habitude. Mais je vous livre les roses avec les épines. C'est cela le message de Dieu. Dieu va rassembler son peuple. Ce peuple qu'il va séparer, il va appeler cette nouvelle Jérusalem spirituelle. Il fait connaître sa voix. Dans Hébreux chapitre 12, verset 22, il est dit « Vous êtes approchés de la montagne de Dieu, de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec des milliers d'anges en fait. » Dieu a ce message pour tous ceux qui ont été appelés. La voix de Dieu qui a ébranlé la terre, mes frères et sœurs, dans les générations passées, va faire entendre sa voix, va ébranler les cœurs pour que des hommes et des femmes puissent encore aujourd'hui se tourner vers lui. C'est important, avant d'attendre le dernier tremblement. Oui, Hébreux 12, 26 qui nous dit « Celui dont la voix a fait alors trembler la terre » Fais maintenant cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Frères et sœurs, nous sommes en période de crise. Elle n'est pas finie, cette crise. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain, après-demain, dans les jours qui vont venir, dans les mois. Dieu le sait. Et pourquoi prépare-toi à rencontrer Dieu. Oui, voici l'avertissement de Dieu pour ces enfants que nous sommes, pour les saints, pour ceux qui croient. Hébreux 12, 25. Prenez donc garde, mes frères et sœurs, de refuser et d'écouter celui qui parle. Les Israélites ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre. Ils n'ont pas échappé au châtiment. Ah, ce n'est pas un message sur l'amour ce matin, mais c'est un message sur votre responsabilité, votre engagement vis-à-vis de Dieu. Oui, à combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si si nous nous détournons de celui qui nous part du haut des cieux. Oui, entendre et écouter la voix de Dieu, c'est très sérieux, mes frères et sœurs. Laissez-moi encore partager avec vous ce que le Saint-Esprit montre dans sa parole à propos de faire entendre sa voix. Tous ceux aussi qui nous disent « Dieu m'a dit oh. » ont-ils vraiment entendu la vraie voix de Dieu? Il y a une incompréhension tragique dans l'Église au fait d'entendre la voix de Dieu. C'est vrai que nous entendons souvent dans les églises, dans les cercles chrétiens, Dieu m'a dit. Beaucoup se disent prophètes et commencent leur message par ces mots, ainsi le Seigneur. Paul avertit qu'il y a beaucoup de voix qui se lèvent, qui cherchent à être entendues. Et c'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10, il existe dans le monde un grand nombre de langues différentes, dont aucune n'est dépourvue de sens. Dans nos cœurs aussi, il y a beaucoup de voix qui crient, et toutes prétendent être la voix de Dieu. Et si vous faites confiance à n'importe laquelle de cette voix sans l'éprouver par la parole de Dieu, vous allez être laissé de côté. Oui, il y a la voix de la chair. Il y a la voix de notre volonté obstinée. Il y a la voix de l'ennemi, la voix du monde. Oh, elles sont agréables, certes. Elles sont douces. Elles vous promettent que c'est Dieu qui parle. Alors, laissez-moi vous dire ce matin. Ceux-là, ils se trompent. Ils sont sûrs de se tromper. Et c'est vrai que j'entends aussi. Dieu, il ne peut pas se tromper. Donc si Dieu ne peut pas se tromper, moi je ne peux pas me tromper. Et moi j'avais dit à ce chrétien, tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un homme. Et oui. Et il est vrai que nous pouvons avoir à un moment donné reçu de la part de Dieu une parole. Mais est-ce que systématiquement je vais recevoir une autre parole? Non, mes frères et sœurs. N'agissons pas sur des impressions, sur des sentiments, sur des voix. Ils ne sont pas sortis de la chambre secrète dans laquelle nous nous sommes placés devant Dieu. Nous ne sommes pas infaillibles, mes frères et sœurs, et toutes les paroles que nous recevons ne viennent pas de Dieu. Oui, de nombreux prophètes crient ainsi par le Seigneur, alors que Dieu ne leur a pas parlé du tout. Ils parlent de leurs propres pensées, mais pas celle de Dieu. Autre chose, et pour terminer, Dieu ne parle jamais à une personne qui cache son péché, comme l'orgueil, l'ambition, la luxure, etc. Personne ne peut entendre la voix de Dieu avec une idole ou quelque chose qui l'a fait tomber. Quelqu'un qui garde une idole dans le cœur. Lisez chez vous Jérémie, le chapitre 14. Lisez Jérémie, chapitre 23 chez vous, et vous verrez ce que Dieu dit. La voix de Dieu ne viendra pas vers ceux qui entretiennent leur propre péché comme une idole. Et c'est Ézéchiel, et vous lirez Ézéchiel, le chapitre 14, et vous verrez. Il dit, ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur et leurs yeux se tournent sans cesse vers celui qui les a fait tomber dans le péché. Alors, vais-je me laisser consulter par eux? Dieu nous dit, si tu veux ma voix, enferme-toi dans ta chambre, dans la prière secrète. Dieu te dit, prie-moi en secret, et là je te le rendrai. Vous savez, les uns et les autres, nous sommes très occupés. Nous réalisons que notre société aujourd'hui, eh bien, nous entraîne vers des convoitises qui n'ont pas lieu, qui ne doivent pas avoir lieu dans notre vie. Des inquiétudes qui finissent par écouter, étouffer la voix de Dieu. Jésus nous donne un avertissement terrible contre le fait de devenir trop occupé pour s'arrêter et écouter sa voix. Parce que certains reçoivent la semence parmi les ronces, et il nous dit, ce sont ceux qui écoutent la parole, Marc 4, 18, 19, ce sont ceux qui écoutent la parole, mais qui, en elle, ne portent pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Je vous le dis, frères et sœurs, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas le discernement du Saint-Esprit. Si ce n'est pas né dans la chambre, j'ai envie de dire dans la chambre haute de ce lieu où nous nous tenons, dans une profonde communion, avec un esprit brisé et beaucoup de temps passé en sa présence, alors je suis persuadé, mes frères et sœurs, je suis même certain que tout le peuple de Dieu serait capable d'entendre la voix douce et légère, et ils seraient capables de déposer leurs péchés, leurs idoles, et ils s'enfermeraient avec lui. Et ils ne parleraient pas avant que Dieu leur parle. Dieu, ce matin, nous offre une parole fraîche, porteuse de vie, pour une nouvelle journée. Dieu donne une parole fraîche chaque jour pour ceux qui veulent bien écouter, mais beaucoup ne peuvent pas entendre à cause de leur cœur endurci. Je termine par cette parole d'Hébreux, chapitre 3, versets 7 et 8. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, parce qu'elle est esprit et vie. Elle est parole de Dieu. Nous ne voulons rien ajouter, rien retrancher. Nous te prions, Seigneur, que cette parole, et par ton esprit, fasse son œuvre en nous, qu'elle puisse agir, afin que, eh bien, dans cette semaine, eh bien, peut-être quelque chose, et je le souhaite de tout mon cœur, que quelque chose ait changé. C'est pour cela que tu nous as laissé ta parole. C'est vrai, on se dit, si nous étions vraiment des chrétiens spirituels, nous n'aurions peut-être pas besoin de pasteur. Dis bien peut-être. Mais une chose est certaine, c'est que nous pourrions régler notre pas avec le pas de Dieu, simplement en lisant ce livre. Et d'une manière régulière, persévérante. Nous prenons du temps pour manger, pour dormir, pour boire, pour aller faire nos courses, pour aller nous distraire, pour travailler. L'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout. N'y aurait-il pas un temps pour Dieu, un temps pour sa parole? Alors Seigneur, bénis cet auditoire ce matin, répands ta grâce et ta bénédiction avec abondance, Seigneur, et que ta bonté et ta miséricorde soient renouvelées à chacun, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.